Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Cette plongée au cœur de nos sources est présentée par le Cyberintelligence Bureau, qui est une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Leur approche combine des techniques OSINT, Open Source Intelligence, et des preuves UMINT, telles que des enquêtes sur les activités cybernétiques, incluant l'analyse émotionnelle, intellectuelle, cognitive et géopolitique des influences des cybermenaces.
Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il est absolument crucial de bien poser le cadre de cette analyse. Toutes les informations que nous allons explorer proviennent directement d'enquêtes de renseignements en source ouverte. Ce sont des données d'origine strictement cybernétique. Elles ont été rigoureusement corrélées, validées et qualifiées de confiance par les analystes.
C'est un point fondamental, oui.
Absolument. Et j'insiste sur le fait que notre discussion adopte une perspective exclusivement cyber. L'ensemble de cette recherche respecte un principe de neutralité absolue vis-à-vis des conflits géopolitiques qui vont être mentionnés. L'objectif n'est vraiment pas de prendre parti, mais d'étudier des tactiques et des comportements de manière, totalement impartiale.
C'est une précision essentielle, d'autant que le dossier qu'on a sur la table aujourd'hui, eh bien, il est tout simplement fascinant. Et il touche à des cordes très sensibles. On va se concentrer sur un collectif activiste connu sous le nom de Cardinal. Et ce qui m'a tout de suite frappé dans ces documents, c'est qu'on est à des années-lumière de l'image classique du pirate informatique.
Ah oui, complètement. On ne parle plus du tout de petits piratages isolés.
C'est ça. Pas de vol de cartes de crédit ou de rançongiciels habituels. Les sources décrivent Cardinal comme une entité hyper spécialisée dans les opérations psychologiques avancées, les fameuses psy-ops. En fait, leur véritable cible, ce ne sont pas les serveurs informatiques, c'est l'esprit humain. Ils cherchent littéralement à pirater notre perception de la réalité.
Et c'est précisément ce changement de paradigme qui les rend si redoutables. On est en plein cœur de ce qu'on appelle la guerre cognitive. L'infrastructure technique, les virus, les réseaux, ce n'est plus qu'un moyen de transport. La véritable charge utile, c'est l'émotion qu'ils arrivent à véhiculer.
Et leur évolution chronologique est particulièrement intéressante. D'après le rapport, ce groupe a émergé entre la fin 2025 et le début 2026. Au tout début, ça ressemblait fortement à un groupe aligné sur les intérêts russes dans le sillage du conflit ukrainien. Mais il y a eu un vrai point de bascule.
Un point de bascule spectaculaire même. L'analyse met en évidence un opportunisme géopolitique majeur autour de mars 2026, juste après les frappes militaires Epic Fury et Roaring Lion.
Celle de fin février, c'est ça ?
C'est ça. À ce moment-là, Cardinal a opéré un pivot inattendu. De groupes initialement pro-russes, ils ont forgé une alliance tactique avec des acteurs pro-iraniens. Ils ont carrément constitué un front hybride contre Israël et les nations occidentales. D'un point de vue analytique, c'est un coup de maître. Ils ont compris qu'en s'amarrant à une crise géopolitique hyper médiatisée, ils allaient démultiplier leur impact psychologique.
En parlant d'analyse, il y a un détail méthodologique dans les notes qui m'a beaucoup interpellé. Les chercheurs expliquent qu'ils traquent ce groupe avec des mécanismes s'apparentant au profilage SIGINT. Historiquement, le SIGINT, on l'associe plutôt à, je ne sais pas, l'interception de communications militaires, de radars. Comment on applique des techniques de renseignement électromagnétique à un groupe sur Telegram ?
C'est brillant comme approche. En temps normal, la discipline cherche à capter un signal pour localiser un émetteur physique sur un champ de bataille. Ici, les analystes appliquent cette même rigueur mathématique aux empreintes numériques de Cardinal. Ils ne font pas que lire les messages publics.
Ils vont plus loin.
Beaucoup plus loin. Ils décortiquent les métadonnées des publications, ils analysent la fréquence de déploiement des réseaux de bots, les structures linguistiques sur Telegram. Le but final n'est pas de trouver une adresse IP ou un serveur physique, mais de cartographier un état d'esprit. Ils modélisent l'état de stress psychologique que le groupe essaie d'induire à un instant précis.
Ce qui nous amène directement à leur mode opératoire, qui est très collaboratif en fin de compte. En janvier 2026, on retrouve Cardinal parmi les fondateurs de la Russian Legion. Ensuite, il crée une espèce de salle des opérations électroniques hybride avec d'autres groupes. Mais en lisant leur mode d'action, j'ai trouvé une tactique presque grossière. Leur stratégie centrale, c'est de revendiquer d'abord et de prouver partiellement ensuite.
Revendiquer d'abord, prouver ensuite, oui.
Mais dans le monde de la cybersécurité, où tout le monde passe son temps à vérifier les faits, comment ça peut marcher ? Une fausse revendication, ça se démonte en quelques heures, non ?
C'est une objection tout à fait logique, mais en fait, elle présuppose que Cardinal cherche à convaincre les experts en sécurité. Et ce n'est pas le cas du tout.
Ah, leur cible est différente.
Exactement. Leur cible, c'est le grand public et les décideurs politiques qui sont soumis à une pression monstrueuse. Cette tactique exploite simplement la vitesse de propagation de l'angoisse. Ils annoncent une catastrophe, ce qui déclenche une panique immédiate. Ensuite, ils lâchent un petit fragment de preuve, souvent hors contexte. Le temps que vous et moi ou les analystes on vérifie et qu'on rassure la population...
Le mal est déjà fait.
Voilà, l'idée de la vulnérabilité est déjà implantée dans l'inconscient collectif.
C'est de l'ingénierie psychologique à l'état pur. Et c'est là que le rapport devient très dense, car il explique que l'intelligence émotionnelle est utilisée comme une véritable arme. On cherche vraiment à exploiter nos biais cognitifs. D'ailleurs, les sources s'appuient sur des concepts scientifiques très précis, avec des dates. Prenons le premier cas, celui de la fausse application Home Front Command Red Alert en Israël. C'est lié au biais de preuves sociales et d'autorité.
Tout à fait. C'est un concept extrêmement bien documenté par Robert Cialdini avec ses travaux de 1984 et 2001. Et ce cas en Israël est une application glaçante de sa théorie. Imaginez des civils en pleine tension, avec des sirènes réelles qui retentissent dans la ville. Soudain, ils reçoivent un SMS.
Un SMS qui reprend tous les codes de la défense civile.
Exactement. Les mêmes couleurs, le même ton officiel. Le message exige de télécharger une mise à jour d'urgence pour continuer à recevoir les alertes antimissiles vitales.
Et là, l'instinct de survie prend le dessus sur la raison. On ne réfléchit même plus aux codes malveillants, on télécharge. C'est d'un cynisme absolu de transformer un outil de protection en cheval de Troie.
C'est tout le principe du biais d'autorité. Cialdini a prouvé que face à une figure d'autorité légitime, surtout en cas de danger de mort, l'amygdale, qui gère la peur dans notre cerveau, prend le contrôle total. Le cortex préfrontal, qui devrait analyser la situation de manière critique, est court-circuité. En faisant ça, Cardinal n'a pas seulement volé des données de localisation, ils ont fracturé le lien de confiance entre la population et l'État.
Ce qui facilite tout le reste de leurs opérations. Et ce n'est pas tout. La deuxième technique évoquée s'attaque à la structure du langage. On parle de programmation neurolinguistique, la PNL, et de cadrage sémantique. Les notes citent les modèles de Bendler et Grandeur de 1975. Comment des hackers intègrent de la linguistique académique dans de simples postes Telegram ?
De façon extrêmement calculée. Quand on analyse sémantiquement leurs textes, on retrouve le modèle de Milton. Ils utilisent des phrases directives pour contourner la résistance consciente. Au lieu de faire une menace classique du genre « nous pourrions détruire vos radars », Cardinal va écrire « pendant que nous prenons le contrôle de vos radars, vos dirigeants dorment ».
La nuance est incroyable. La prise de contrôle devient une prémisse incontestable.
C'est le principe de la commande intégrée. Pour que votre cerveau comprenne la fin de la phrase, il est obligé d'accepter le début comme une réalité. Il n'utilise jamais le conditionnel. Tout est formulé comme inévitable. L'esprit de la cible est projeté dans l'angoisse des conséquences avant même d'avoir évalué la menace.
Ça me fascine, ce qui nous amène à une autre notion psychologique majeure du rapport, la théorie des perspectives et plus précisément l'aversion à la perte de Daniel Kahneman de 1979 et 2011, ça lui a d'ailleurs valu un prix Nobel. Les documents illustrent ça avec l'opération Denmark de janvier 2026. Cardinal a donné un ultimatum de 48 heures au Danemark pour cesser son aide à l'Ukraine. Pourquoi 48 heures ? Quel est le lien avec l'aversion à la perte ?
Kahneman a démontré que la douleur psychologique de perdre quelque chose est deux fois plus intense que le plaisir de gagner une chose équivalente. À l'échelle d'un gouvernement, c'est une arme de paralysie redoutable. En fixant un compte à rebours artificiel et très court, de 48 heures, on force l'État à focaliser toute son attention sur ce qu'il va perdre, ses infrastructures, son économie.
Donc le manque de temps empêche une évaluation rationnelle.
Absolument. L'urgence amplifie l'aversion à la perte. Les décideurs sont face à un dilemme impossible. Soit ils sont paralysés, soit ils réagissent de manière précipitée et disproportionnée. L'attaquant perturbe le pays sans même avoir lancé l'attaque technologique.
C'est épuisant pour les défenses, ce qui correspond bien au quatrième concept identifié, le pattern STOP de Lazarus en 1966, le stress psychologique.
Oui, STOP, pour Stop Thinking Overwhelm Panic. C'est la surcharge cognitive. Cardinal cible les moments de fatigue, orchestre de multiples fausses alertes pour saturer les capacités des équipes de réponse, les SOC et les CERT. Le flux d'informations force l'arrêt de la pensée rationnelle et installe une panique systémique.
Et cette paralysie prend une tournure encore plus dramatique quand on regarde leur cible physique. La deuxième partie du rapport se penche sur les systèmes industriels, les fameux systèmes SCADA. L'eau, l'électricité, le nucléaire, la frontière entre le numérique et le monde physique devient poreuse.
C'est le point culminant de leurs opérations. Frapper un SCADA, c'est générer une terreur existentielle liée à la survie basique d'une nation.
On a deux allégations majeures en mars 2026. L'infiltration du centre de recherche nucléaire de Dimona, en Israël, avec la publication de 84 minutes de logs inexpliqués. Ils affirmaient avoir manipulé les barres de contrôle du réacteur. Et ensuite, la prétendue paralysie des radars du dôme de fer, le système Magène-Safony. Mais franchement, publier des lignes de texte pendant 84 minutes, ça prouve une compromission nucléaire. Ça sent l'écran de fumée.
Vous avez totalement raison, et les analystes concluent la même chose. En réalité, la véracité de la brèche importe peu. C'est le concept de la SWIFT, la fenêtre synchrone de peur induite. Provoquer une vraie fusion nucléaire, c'est très complexe et bloqué par des sécurités physiques indépendantes.
Quel est l'intérêt de l'attaque alors ?
La synchronisation. Faire coïncider une attaque cinétique réelle, comme des tirs de missiles, avec une alarme numérique complètement fabriquée.
D'accord, donc je suis un civil. J'entends les interceptions de missiles au-dessus de ma tête. Et au même moment, je reçois une notification disant que le bouclier antimissile est tombé et que le réacteur d'à côté est hors de contrôle.
C'est ça. Le bruit bien réel de la guerre valide le mensonge numérique. L'illusion de la faille génère exactement la même panique qu'une vraie faille. La population se sent piégée et impuissante.
C'est une mécanique vertigineuse. Et le plus inquiétant sont les projections pour l'Europe. Les analystes prévoient deux scénarios. Le plus probable, à court terme, c'est l'EPRC, l'escalade pression-réponse ciblée.
On appelle ça la stratégie de la mort par mille entailles. Les cibles seraient les pays de la ligne de front, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie. Cardinal lancerait des campagnes hybrides avec des attaques DDoS et des ransomware sur les télécommunications et les gouvernements locaux.
Pour obtenir quel bénéfice psychologique ? Pourquoi du harcèlement plutôt qu'une grosse frappe ?
Pour générer une fatigue, des failles. À force de petites fuites de données et d'interruptions constantes, la terreur se banalise. La population finit par douter de la compétence de l'État à la protéger. L'agresseur gagne en érodant la confiance jour après jour.
C'est insidieux. Et puis il y a le scénario du pire, la CCS, la cascade catastrophique synchrone.
C'est l'aboutissement de la guerre hybride. Là, on ne parle plus d'illusions. Le scénario projette une brèche réelle et profonde sur les systèmes SCADA du réseau électrique européen, l'ENTSE.
Une panne de courant à l'échelle du continent.
Oui, et la dimension psychologique transforme cette panne en chaos absolu. Pendant que des millions de gens sont dans le noir, des réseaux de bots diffuseraient de fausses fuites radioactives ou de faux documents sur la contamination de l'eau.
Et le rapport mentionne que ça serait synchronisé avec une escalade militaire ouverte.
C'est le but de la cascade catastrophique. Sans énergie, sans communication, sous pression militaire et noyée de fausses informations terrifiantes, la cible perd toute résilience. L'effondrement sociétal est immédiat.
Ça laisse sans voix. La cybersécurité, ce n'est définitivement plus juste protéger des bases de données. Il s'agit de protéger la résilience cognitive de nos sociétés entières.
C'est le défi de la décennie. Sécuriser la façon dont l'information est perçue par notre cerveau en temps de crise.
Isée, à paralyser des gouvernements et à terrifier des millions de personnes, on peut se demander si les grandes guerres de demain ne seront pas gagnées et perdues exclusivement dans le théâtre de l'esprit public. Pourrait-on voir une nation s'effondrer de l'intérieur ? Persuadé de sa défaite, sans qu'un seul bâtiment ne soit bombardé, sans qu'un seul système physique ne soit réellement détruit. C'est un véritable mystère cognitif, une perspective à la fois fascinante et effrayante, qu'on vous laisse méditer.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.